Restons courtois. Marc Henault.
Et bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sur l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à nouveau Valentin. Et Étienne Darjac, éditorialiste, chroniqueur bien connu de cette radio. Et je reçois Fergan Aziari, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'auteur de cet excellent et courageux ouvrage, L'Islam contre la modernité. Attends, la caméra, voilà. Aux éditions, aux presses de la Cité, dans cet ouvrage à la fois riche et vraiment... j'insiste, accessible à tous, c'est-à-dire que c'est fabuleux, on sort de ce livre intelligent et vraiment en ayant l'impression d'avoir tout compris, ce qui peut être rare par les temps qui courent. Vous entrez dans un combat intellectuel contre l'islam, on peut le dire comme ça. Et en fait, j'ai presque une question de préambule avant de vous questionner sur le livre. On sait à quel point il est difficile, à quel point il faut être courageux aussi pour affronter ce sujet frontalement. Question très simple, pardon, est-ce que vous avez été menacé depuis que ce livre est sorti ?
J'ai quelques menaces de courageux anonymes sur les réseaux sociaux, mais je tiens à dire que ce qui m'effraie, c'est pas tant les menaces des fanatiques que le risque d'une certaine désinvolture de mes concitoyens. Parce que il faut quand même rappeler que nos ennemis sont forts de nos faiblesses avant toute chose, et que le premier risque, c'est celui-ci, c'est notre désinvolture et notre lâcheté.
J'ai entendu dire, alors je crois que c'est Pierre Valentin qui le relevait dans Transmission, que vous avez mis 5 ans à écrire ce livre. Finalement, c'est un projet qui a été long à maturer.
C'est un projet assez long parce que c'était pas facile de traiter 1400 ans d'histoire pour une civilisation, une ère culturelle aussi vaste que l'islam. Il fallait aussi, je crois, un ouvrage qui synthétise la plupart des données qui ont été produites sur ce sujet depuis longtemps, mais que certains n'osent pas toujours explorer.
En tout cas, on précise que vous êtes issu d'une famille comorienne musulmane, donc qui est arrivée en France... Vos parents sont arrivés en France
dans les années 70, après l'indépendance.
Voilà. Et en fait, vous justifiez ce livre, notamment par cette phrase, page 19, l'auteur de ces lignes ne peut se résoudre à ce que le monde d'où viennent ses ancêtres reste englué dans la déchéance la plus complète. Ce livre, vous l'écrivez aussi pour vous, pour le monde d'où vous venez ?
Tout à fait, en partie, c'est-à-dire que ce livre est le fruit, on va dire... d'une double perspective. Je suis à la fois un citoyen français issu de la tradition libérale, et donc en tant que libéral, je suis forcé d'admettre que les sociétés musulmanes entretiennent quelques conflits, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les principes qui sont les miens. Et par ailleurs, vous l'avez rappelé, mes parents sont originaires des Comores. Alors si je rappelle ce parcours, ce n'est pas du tout pour me donner un argument d'autorité, l'identité ne dit absolument rien de la qualité de vos propos. Mais en l'occurrence, quand on est issu de l'immigration postcoloniale, je crois qu'on est nécessairement amené à s'interroger sur les dysfonctionnements qui ont conduit nos ancêtres à l'exil, et en l'occurrence, qui ont conduit les miens à voyager à plus de 8000 km de leur lieu de naissance pour obtenir une vie décente. Et le drame, selon moi, c'est que beaucoup de descendants de l'immigration musulmane peinent à tirer les conclusions qui s'imposent de leur présence dans les sociétés occidentales.
Et ce qui est fou, c'est que ce livre, vous le faites démarrer en fait à l'égir, vous le faites démarrer vraiment au tout début de l'islam, et vous rappelez que contrairement à la légende dorée, l'islam n'a en rien... favoriser l'émergence de la culture arabe, n'a en rien été un coup de fouet justement pour sa culture, et qu'au contraire, elle a détruit tout ce qui lui préexistait.
Alors c'est un point qui est très important de l'ouvrage, c'est-à-dire que la propagande musulmane enseigne que l'islam serait né dans une espèce d'Orient arriéré, illettré, anarchique, c'est-à-dire qu'il y a eu une véritable volonté des historiens musulmans de dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques conformément à un schéma colonial tout à fait classique. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est que ce récit a eu un effet dévastateur dans le monde musulman parce qu'il a persuadé les disciples de Mahomet que leur superstition était la meilleure chose qui pouvait arriver à la région. Et moi, je rappelle que le Proche-Orient n'a pas attendu l'arrivée de Mahomet pour être un prestigieux foyer de science et de culture. L'islam, lorsqu'il débarque au 7e siècle, s'installe à l'intérieur de l'un des plus vieux carrefours d'hommes et de peuples civilisés qui soient au monde, pour citer l'historien Fernand Braudel. Et quand on se souvient que le monde arabe, avant l'arrivée de l'islam, donnait des empereurs et des impératrices à Rome, des professeurs à Athènes, donnait des souverains chrétiens, une reine catholique qui secourait Constantinople face aux Goths, quand on se souvient que le monde berbère, avant l'islam, donnait à la littérature latine des romanciers talentueux, des papes à la chrétienté. Quand on se souvient que des siècles avant l'islam en Afghanistan, on produisait de magnifiques sculptures gréco-bouddhistes, on est en droit de contester le mensonge d'un islam civilisateur. Et on est en droit de penser avec Levi-Strauss que l'islam a coupé en deux un monde beaucoup plus civilisé. Et moi, mon vœu le plus cher serait que les musulmans, un jour, cessaient peut-être à cette uchronie en se demandant ce que serait leur existence aujourd'hui si la prédication de Mahomet avait échoué. Et je pense qu'ils seront sauvés le jour où ils se poseront cette question sur un ton nostalgique.
Vous avez eu cette phrase très forte, qui est d'ailleurs le titre d'une nouvelle sous-partie, c'est « L'islam a mutilé l'héritage de l'Orient ». C'est vrai, je me suis déjà rendu une fois en Jordanie, et c'est vrai, quand on voit le site de Petra, c'est les vestiges de la civilisation nabatéenne, et qu'on voit l'état de la Jordanie actuelle, on ne peut s'empêcher de se dire, mais en fait, que s'est-il passé en réalité ?
C'est exactement la question que je pose, c'est que s'est-il passé ? Et le drame, c'est qu'en effet, les musulmans n'aient pas manifesté beaucoup d'intérêt pour les civilisations pré-islamiques, et vous avez évoqué le site de Petra, on pourrait aussi parler du site de Palmyre en Syrie, et tous ces vestiges des grandes civilisations du passé qui, curieusement, ont attendu l'arrivée des archéologues et des explorateurs européens pour être exhumés et déchiffrés. Les hiéroglyphes en Égypte ont attendu l'arrivée d'un Français, Jean-François Chapollion, pour être déchiffré au XIXe siècle, là où les natifs musulmans ont manifesté très peu d'intérêt pour des choses qu'ils côtoyaient. C'est comme si, par exemple, les Arabes, les Turcs, les Persans avaient manifesté beaucoup plus d'intérêt pour les Gaulois que les Français eux-mêmes. Voilà le genre d'anomalie auquel nous sommes confrontés et qui explique bien des désastres actuels, à mon avis.
Je vais laisser à mes chroniqueurs l'occasion de vous poser des questions, mais on va faire un petit bond dans l'histoire. Vous battez aussi en brèche l'illusion, l'excuse presque, que le retard des sociétés musulmanes est dû notamment à la colonisation, où on dit la colonisation est la nuit coloniale, tout à fait, qui était une expression d'un indépendantiste algérien.
Tout à fait.
Et
Ferhat Abbas.
Absolument. Ça lui a pas porté chance. C'est au fond cette excuse pour vous ne tient pas la route.
Elle ne tient pas la route et elle a l'inconvénient d'empêcher les musulmans de faire leur autocritique, c'est-à-dire que l'idée que la misère du monde musulman serait imputable à la colonisation européenne entretient implicitement une espèce de mythe de l'âge d'or qui voudrait qu'avant l'arrivée des Européens, les sociétés musulmanes auraient été des Eldorado droit-lomistes, progressistes, à la pointe de la modernité. On sait évidemment que ce n'est pas le cas. On ne peut pas reprocher à Bonaparte le fait que les Égyptiens ne connaissaient pas l'imprimerie avant l'arrivée des troupes françaises et mettent d'ailleurs 20 ans après le départ de ces troupes pour s'approprier cette technologie. On ne peut pas reprocher aux Européens le fait que les Ottomans mettent 3 siècles précisément après Gutenberg pour s'approprier l'imprimerie, là où les minorités juives et chrétienne de l'Empire ottoman utilisait déjà cette technologie 250 ans plus tôt. Et encore, l'introduction de la technologie en milieu musulman, on la doit à un renégat d'origine hongroise, donc même pas un musulman natif, si vous voulez. Et donc, l'idée que la colonisation occidentale serait responsable de tous les maux du monde musulman néglige le fait que ces sociétés étaient des sociétés autoritaires bien avant l'arrivée des Européens. C'était pas des Eldorado droit de l'homiste. C'était des sociétés esclavagistes, d'ailleurs, qui pratiquaient parfois l'esclavage dans des proportions bien plus élevées que celles que l'on retrouvait sur le continent américain. Je prends l'exemple du califat de Sokoto, qui est situé dans l'actuel Nigeria et qui était l'une des plus vaste société esclavagiste de l'histoire moderne avant son démantèlement par les puissances européennes. D'ailleurs, pour reprendre la question de l'esclavage, on sait que cette institution était tellement enracinée dans le monde musulman que ces derniers n'ont jamais été capables de produire un discours abolitionniste avant l'arrivée des Européens. Il n'y a jamais eu l'équivalent de la controverse de Valladolid en terre d'islam, cette controverse qui, au XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques. Il n'y a jamais eu en terre d'islam l'équivalent d'un Condorcet, l'équivalent de cette société civile comme la société des Amis des Noirs, cette société civile qui va se battre pour l'abolition des traites négrières, à tel point que le reflux de l'esclavage en terre d'islam doit presque tout aux interventions coloniales occidentales, ce qui est un véritable tabou historiographique. Toute la littérature dite anticoloniale se garde bien de rappeler ces faits, de rappeler le fait que ce sont les Français qui ont en Algérie forcé les indigènes à renoncer au commerce de nègres tel qu'on l'appelait à l'époque à partir de 1848. ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc au début du XXe siècle, donc une époque quand même assez tardive, que ce sont les Britanniques qui ont fait pression sur l'Empire ottoman afin que celui-ci renonce petit à petit aux traites négrières, mais aussi aux traites des peuples du Caucase. Et pour vous dire à quel point, effectivement, l'esclavage était une institution enracinée, l'Empire ottoman n'a jamais été capable de déclarer l'esclavage illicite, et ceci jusqu'à sa dissolution après la Première Guerre mondiale. Donc il n'y a pas d'âge d'or en la matière, et on ne peut pas imputer aux Européens des mots qui précèdent largement leurs arrivées.
Vous faites, on pourrait penser que cette incapacité, on va dire, de l'islam s'imprégner, on va dire, de la culture occidentale est due au fait qu'il s'agit tout simplement d'une civilisation autre et que ce qui marche pour les sociétés musulmanes marche aussi pour les autres sociétés. Or, vous faites un parallèle très intéressant avec la colonisation entre guillemets de l'Inde par les Anglais, où vous montrez à quel point la société hindoue s'imprègne de culture occidentale et même demandeur d'une telle culture.
Et moins réfractaire, en effet.
Et moins réfractaire. Et l'impossibilité pour les Anglais de pénétrer les familles musulmanes, donc plutôt originaires du Sindh, à pénétrer justement ces cultures et de voir justement dans ces communautés un rejet total et absolu de ce qui pourrait leur apporter.
Ce qui est assez spectaculaire, c'est que la colonisation occidentale a concerné une multitude d'aires culturelles et de communautés. Donc les musulmans ne sont pas les seuls à avoir été confrontés au défi de l'impérialisme occidental. Il y a eu des peuples animistes en Afrique, il y a eu des peuples en Asie, il y a eu le Japon, alors qu'il n'a pas été colonisé, mais qui avait quand même été confronté à une certaine hégémonie, notamment américaine. Et ce qui est assez spectaculaire, c'est que tout le monde ne va pas réagir de la même manière au défi de l'impérialisme occidental. Et ce qui est assez, ce que je souligne dans ce livre, c'est que de tous les indigènes juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, animistes, qui ont été confrontés à la colonisation occidentale, les musulmans figurait parmi les communautés les plus réfractaires aux idées modernes, et cela se traduit notamment par leur sous-représentation dans les institutions scolaires dans tous les pays où l'Occident est implanté. En Algérie, par exemple, vous aviez des rapports officiels qui se désolaient que les musulmans tendaient à bouder les écoles françaises, là où les juifs étaient très demandeurs de la modernité européenne. En Syrie et en Égypte, les indigènes chrétiens juifs étaient aussi beaucoup plus demandeurs des apports culturels européens que les musulmans. En Inde, vous l'avez rappelé, les hindous étaient beaucoup plus ouverts, en tout cas beaucoup plus disponibles, avaient une plus grande disponibilité à l'égard des apports culturels européens que les musulmans. Et donc là, on a un schéma, et un schéma d'autant plus intéressant qu'on pourrait en réalité remonter à une époque plus lointaine, en rappelant qu'il y a eu une asymétrie totale en matière de curiosité intellectuelle entre l'Orient et l'Occident. Je prends un exemple, par exemple, le cas de l'étude des langues. Là, on recense en Europe, dès le Moyen-Âge, des lettrés chrétiens qui vont apprendre l'arabe, y compris d'ailleurs pendant les croisades. Alors certes, parfois à des fins polémiques, à des fins missionnaires, mais tout de même, il y a un effort de compréhension et d'imprégnation de la culture de l'autre. Et il n'y a jamais eu cette attitude équivalente en terre d'islam. La tradition orientaliste européenne n'a jamais eu son pendant en termes d'islam, et c'est quand même quelque chose qui est remarquable et qui éclaire aussi les problèmes d'intégration que nous connaissons et qui ne sont pas du coup un accident de la modernité, mais qui s'inscrivent dans une espèce de continuité, une espèce de sectarisme culturel, intellectuel qu'on peut faire remonter malheureusement aux origines de l'islam.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Nous recevons Fergan Aziari pour son livre L'Islam contre la modernité. Étienne Darjac, vous avez une question pour notre invité.
Oui, tout à fait. Vous venez de faire un constat que j'ai trouvé particulièrement brillant et intéressant. Je vous en remercie. La question me semble être, peut-être que vous la traitez dans le livre, que je n'ai pas lu pour être honnête encore. La question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est, ceci étant dit, que faire ? Comment, une fois ce constat posé, on se confronte à la présence de sans doute 6 à 8 millions de musulmans en France, beaucoup plus que ça en Europe. Est-ce que derrière votre livre, il y a l'idée d'une réforme de l'islam ou d'un abandon de l'islam par les musulmans ? Quelle est l'option que vous choisissez ?
Alors moi, je ne crois pas en une réforme de l'islam. Je ne crois pas en un islam des Lumières, c'est une chimère qu'on entretient depuis 2 siècles. Et je n'y crois pas pour une raison très simple, c'est que les textes musulmans étant ce qu'ils sont, compte tenu du statut qu'il revendique, compte tenu du condensé de violence, de haine et d'attentat à la dignité humaine que constituent les textes fondateurs de l'islam, la tentative de civiliser l'islam de l'intérieur s'apparente pour moi à un effort comparable à ceux de ces alchimistes qui voulaient transformer le plomb en or. Donc je ne crois pas en cette sortie. En revanche, je crois en une approche beaucoup plus voltairienne. C'est-à-dire que je trouve que l'islam des Lumières, si vous voulez, c'est faire beaucoup trop de concessions à une superstition qui ne mérite pas d'être défendue. Et c'est tout simplement détourner les musulmans et les non-musulmans d'une vérité tout à fait rationnelle et scientifique, et qui est que l'islam est une religion fondée sur un tissu de mensonges, que le Coran n'est absolument pas un texte divin, que c'est un texte de l'Antiquité tardive qui recycle des traditions juives, chrétiennes, zoroastriennes. On sait que les cinq prières par jour, ça vient du zoroastrisme. Et je pense qu'en France, nous sommes les héritiers d'une tradition orientaliste et islamologique prestigieuse. Et nous avons aujourd'hui des outils critiques pour opposer à l'islam un discours tout à fait rationnel. La grande curiosité, c'est que nous n'osons pas utiliser ces outils à notre disposition. En fait, je n'aurais jamais dû écrire ce livre. Ce livre aurait dû être écrit par des islamologues qui auraient dû faire le boulot à ma place. Et les connaissances, les données dans ce livre auraient dû être transmises par l'éducation nationale. Si on avait vraiment une institution qui faisait son boulot, ce serait à elle de transmettre une vision critique du fait islamique au lieu de recycler la vulgate musulmane au nom, en vertu d'un certain paternalisme aussi. Et moi, j'assimile cette attitude à une forme de condescendance à l'égard des musulmans, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de parler aux musulmans comme s'ils étaient des enfants attardés à qui on fait miroiter l'existence du Père Noël et à qui serait incapable d'entendre une vérité tout à fait accessible.
Oui, vous dénoncez notamment la dangereuse illusion de l'islam libéral et quelques pages plus loin, d'ailleurs, vous dites de manière un petit peu provocante, mais je pense tout à fait réelle d'un point de vue religieux, les membres de Daesh appliquent les textes islamiques à la perfection.
Oui, ce n'est absolument pas une provocation, c'est tout à fait...
ce qui pourrait être perçu comme une provocation par énormément de personnes dans ce...
Oui, mais malheureusement, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas aux sources, et le fait est que Daesh applique les textes islamiques à la perfection. Quand Daesh met en place une industrie de l'esclavage sexuel, il se réfère à des traditions musulmanes qui dépeignent le prétendu prophète comme étant un adepte de cette institution diabolique. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je ne fais pas de distinction entre l'islam et l'islamisme. C'est un artifice sémantique qu'on a forgé dans les années 80, à un moment où l'Europe accueillait d'importantes populations de culture musulmane. Alors, tantôt pour de bonnes et de mauvaises raisons, les bonnes ne pas stigmatiser, la mauvaise, une volonté de mettre la poussière sous le tapis. On a inventé cet artifice sémantique pour édulcorer la réalité non seulement de la théologie musulmane, mais tout simplement de la réalité sociologique du monde musulman. Parce que, sans faire de la sociologie, le fait est que le monde musulman aujourd'hui se caractérise par une multitude d'anomalies statistiques. Le monde musulman est composé d'une quantité disproportionnée de régimes autoritaires où la liberté relève de la science-fiction. Il y a 1,9 milliard de gens qui peuplent le monde musulman. Seulement 3% d'entre eux vivent dans des régimes plus démocratiques que la moyenne. La quasi-totalité des sociétés musulmanes se situe dans la moitié inférieure de tous les grands classements qui s'intéressent à l'égalité homme-femme. L'essentiel des minorités les plus discriminées dans le monde vivent en terre d'islam. Les sociétés musulmanes sont surreprésentées parmi sont surreprésentées dans les conflits armés, donc ils sont plus belligènes que la moyenne. Le palmarès des organisations terroristes les plus meurtrières est principalement composé d'organisations musulmanes. Donc, quels que soient les indicateurs politiques, économiques, sociaux, culturels, les sociétés musulmanes sont très en deçà des standards que nous sommes en droit d'attendre des sociétés civilisées. Et nous gagnerions à être honnêtes sur le constat pour être en mesure d'appliquer des solutions crédibles.
Valentin Gore, est-ce que vous avez une question ?
Oui, bien sûr. Bah, je rebondis sur ce que vous disiez, Marc, qui m'intéresse beaucoup dans vraiment l'exposé que vous faites, qui est passionnant. Cette distinction islam-islamisme, qui là aussi est reprise en France, vous parlez des accommodements aussi, voilà, vous l'avez un peu dit. Comment dépasser ça malgré tout? Je reviens à cette question parce que on se dit évidemment que vous êtes dans le vrai, mais comment convaincre, comment entamer ce débat aujourd'hui avec une communauté musulmane qui est très diverse, qui pense très différemment? Il y a beaucoup de musulmans qui évidemment seraient horrifiés de ce que vous dites parce que ont leur vision à eux et ils ne se considèrent pas du tout pourrait adhérer à potentiellement à un islam des Lumières, en tout cas s'en revendiquerait. Comment réussir à entamer ce dialogue, si dialogue il y a ?
Moi, je crois toujours au dialogue. Je ne crois pas que tous les systèmes de valeurs se valent. Ça, c'est une, pour le coup, quelque chose sur lequel je ne transige pas. Mais je crois la possibilité d'un dialogue pour peu que celui-ci ne soit pas hypocrite et ne mette pas la poussière sous le tapis. Je pense qu'il y a des gens sincères qui se revendiquent de l'islam et qui ne sont pas forcément mal intentionnés. Évidemment, je pense qu'il est de notre devoir de les interpeller sur le paradoxe suivant. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Occident. Demandez-vous pourquoi vous êtes en Europe. Demandez-vous pourquoi c'est dans les sociétés non musulmanes que les musulmans ont le plus de droits et de libertés. Demandez-vous pourquoi c'est dans les sociétés non musulmanes que votre condition est la moins désagréable. Et demandez-vous vraiment s'il est dans votre intérêt que la religion que vous professez gagne en autorité, gagne en part de marché. C'est là le paradoxe en fait de la situation, c'est que l'islamisation du continent européen que nous connaissons vraisemblablement n'est dans l'intérêt de personne. Ni de la droite qui est attachée à une certaine culture chrétienne, ni de la gauche qui est attachée à un certain idéal progressiste. Il suffit de regarder le fonctionnement du monde musulman 5 minutes pour bien s'apercevoir qu'entre Simone de Beauvoir et Mahomet, la cohabitation est un peu difficile. ni des libéraux qui sont attachés à une certaine éthique de l'individu. Et même les musulmans, j'insiste là-dessus, n'ont pas intérêt à ce que leur superstition gagne en part de marché parce que cela aboutirait immédiatement à la destruction des institutions dont ils bénéficient. Et c'est pourquoi moi je crois beaucoup à cette phrase d'Ernest Renan qu'il faut je pense crier sur tous les toits, c'est que les musulmans la première victime de l'islam, ça reste quand même les musulmans, et émanciper les musulmans de leur religion, c'est le meilleur service qu'on puisse leur rendre, en sachant qu'il n'y a rien de paternaliste là-dessus, puisque c'est aussi un service qu'on se rendrait nous-mêmes.
En fait, vous voudriez que l'islam devienne une religion uniquement spirituelle et perde le côté
temporel? Non, absolument
pas.
Moi, je veux une sortie de la religion.
Une sortie totale.
Je pense que je ne crois pas en cette espèce de solution partielle et mythologique. Je pense que aussi longtemps que nous nous acharnerons à reconnaître à l'islam la moindre validité sur le plan spirituel et moral, on condamne nos sociétés à des dissonances cognitives beaucoup trop fortes, et surtout, on armera toujours les fanatiques et les égorgeurs, les assassins, qui pourront toujours se prévaloir d'être les plus conformes à l'orthodoxie islamique, ce qui n'est, là encore, je le répète, dans l'intérêt de personne, ni des modérés, ni des incroyants, ni de qui que ce soit.
Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire, de désislamiser un...
Alors, vous avez raison que de dire que c'est un défi anthropologique qui est inédit. Ceci dit, quand je regarde un pays comme l'Iran, je trouve que c'est un cas qui est très intéressant parce que l'Iran, c'est le premier pays qui succombe aux expansions musulmanes à partir des 7e et 8e siècles. La Perse sassanide est le premier pays qui tombe, affaibli par ses conflits avec l'Empire romain d'Orient à l'époque. Et aujourd'hui, quand vous regardez certaines enquêtes sociologiques, je pense notamment à celle du Gaman qui a été publiée par la Fondapol, donc un laboratoire d'idées auquel je participe, qui est présidé par Dominique Régnier, eh bien, certaines enquêtes sociologiques vous montrent qu'en Iran, les niveaux de désaffiliation religieuse sont quand même assez spectaculaires, avec une proportion très élevée de gens qui ne se disent plus musulmans, un effondrement de l'onomastique. Quand on fait une analyse onomastique, il y a de moins en moins de gens qui donnent des prénoms musulmans aussi, donc de plus en plus de gens se disent soit sans affiliation religieuse, soit athées, soit chrétiens, soit zoroastriens par fidélité.
Il y a une augmentation de conversion au christianisme en Iran, a priori.
Il y a une désaffiliation, en effet, religieuse, et je me dis très, très simplement que si dans une théocratie sanguinaire, où le simple fait de montrer vos cheveux, d'être mal voilé, vous vaut d'être assassiné, si dans une théocratie sanguinaire où le moindre militant qui conteste l'ordre établi est capable d'enfanter, en tout cas d'observer des niveaux de désaffiliation religieuse aussi élevés, eh bien je me dis que nous en Occident, compte tenu des espaces de liberté qui sont encore les nôtres, nous n'avons aucune excuse, mais pour peu que nous prenions le taureau par les cornes et que l'on arrête effectivement d'édulcorer réalité de l'islam.
En tout cas, vous parlez notamment de la Belgique et de la Grande-Bretagne. En parlant de la Belgique, d'ailleurs, vous dites que le roman Soumission de Michel Houellebecq, c'est pas facile à dire en fin de soirée, en fin de journée, fait office de documentaire. Concrètement, ces pays pour vous sont perdus?
Je n'aime pas dire qu'un pays est perdu parce que je, c'est
bon,
même si je ne suis pas chrétien, j'essaye de cultiver quand même une petite espérance. Donc, mais c'est vrai que la Belgique est dans une situation tragique, mais c'est pas le seul pays. Le Royaume-Uni, même en France, on a quand même intériorisé des anomalies qui sont invraisemblables. Quand, par exemple, à l'issue de l'affaire Mila, une puissance comme la nôtre en soi déscolariser une gamine qui a insulté un être invisible parce que l'État n'est plus capable de la protéger de ses éventuels assassins, quand l'Angleterre doit se résoudre à voir partir l'écrivain Salman Rushdie aux États-Unis parce que désormais le pays qui a inventé le parlementarisme moderne, qui a inventé l'habeas corpus, la Magna Carta, n'est plus capable de protéger les libertés fondamentales d'un écrivain d'origine immigrée, plus qui plus est, et qui est un apostat. Quand je vois qu'aux Pays-Bas, une personnalité comme Ayaan Hirsi Ali, d'origine somalienne, doit quitter la patrie de Spinoza, la patrie qui avait jadis accueilli Descartes après l'assassinat de Théo Van Gogh, parce que là encore, le berceau de la tolérance, les Pays-Bas, n'est plus capable de garantir la sécurité d'une personnalité d'origine musulmane qui se rebelle contre les traditions oppressives de sa communauté d'origine. Il y a des tas de symptômes qui montrent en effet que l'Europe a entamé un processus de décivilisation et il faut poser un diagnostic implacable sur ces maux pour pouvoir appliquer le traitement qu'il convient.
En parlant de la France, vous plaidez notamment pour une république forte, un peu à la manière de la Troisième République qui a opéré la séparation de l'Église et de l'État. Vous ne croyez pas, comme Éric Zemmour, vous en parlez d'ailleurs de son livre dans votre ouvrage, un sursaut judéo-chrétien, vous ne croyez pas vraiment à un rempart du christianisme, que le christianisme pourrait être un rempart face à l'islam?
Alors, moi, je ne suis pas chrétien, donc ça me paraît difficile de plaider en faveur d'une religion à laquelle je n'adhère pas.
Éric Zemmour, il parvient culturellement, en tout cas, d'ailleurs, c'est ce que vous lui reprochez un petit peu.
Il n'y a pas que moi qui lui reproche, puisque, y compris, je lis les critiques qui émanent des chrétiens, et il y a aussi une forme de malaise quant à une vision un peu utilitariste de la religion qui parfois désarçonne les croyants. Et purement identitaire, là où je pense que le christianisme est un petit peu au-delà de ça, même si je ne suis pas un spécialiste de la théologie chrétienne. Moi, je dis les choses très simplement. À tout prendre, si demain on me donne le choix entre une société de culture chrétienne et une société de culture islamisée, je choisis la culture chrétienne sans hésiter, donc je ne renvoie pas.
Comme Richard Dawkins.
Comme Richard Dawkins, qui a beau être athée, ne s'amuse pas à renvoyer les religions dos à dos, parce que ce n'est pas honnête intellectuellement compte tenu des réalités sociologiques des communautés respectives. Ceci dit, il est vrai que le disciple de Voltaire que je suis est sceptique quant à un usage utilitariste de la religion chrétienne. Non pas que j'y sois hostile en tant que tel, mais je constate que sur le plan historique, l'idée que le christianisme serait un rempart crédible contre l'islam me semble être démentie par 1400 ans d'histoire au cours desquels la chrétienté a presque toujours battu en retraite face à l'avancée de l'islam. Alors, à quelques exceptions près, on pense à la Reconquista en Espagne notamment, mais en Afrique du Nord, en Égypte, en Syrie, en Jordanie, vous l'avez évoqué, l'Arabie, l'Anatolie, le siège de l'Empire byzantin, le Liban, tous ces pays étaient jadis de culture chrétienne, et je remarque que l'islam a balayé tout ça, à tel point que ces populations cultivent l'ignorance de leur passé pré-islamique avec une fierté déconcertante et, de mon point de vue, peu justifiée.
Il reste l'Arménie aussi.
C'est vrai. Alors que, sur le plan historique, je remarque que l'un des rares moments où la civilisation islamique va véritablement trembler dans ses fondements, dans ses fondations même, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, avec le déversement des idéologies séculières et la diffusion des idéaux révolutionnaires dans le monde arabo-musulman. Ce n'est pas au nom des évangiles, mais du progrès et des lumières que Atatürk va bazarder les caractères arabes pour les remplacer par des caractères latins. C'est au nom du progrès que le Tunisien Bourguiba va tenter de moderniser la condition féminine. C'est au nom du progrès que la Perse va s'essayer au XXe siècle à une première tentative constitutionnelle et démocratique. Et donc, je remarque une chose très simple, c'est que deux siècles de modernité placés sous la bannière des Lumières et du progrès ont fait bien plus pour ébranler les mentalités et les institutions du monde musulman que 1000 ans de chrétienté et de littérature apologétique. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout du processus, mais moi je dénonce précisément la pusillanimité du camp libéral et progressiste et son refus d'utiliser toutes les armes que le progrès et les Lumières mettent à notre disposition. Et je remarque qu'un pays comme la France s'est montré bien plus intransigeant à l'égard de sa propre religion historique qu'il ne l'est aujourd'hui vis-à-vis d'une superstition importée bien plus dangereuse. Je rappelle quand même que les institutions républicaines telles que les Français les affectionnent sont le fruit d'un combat anticlérical qui a été d'une dureté que nous avons complètement oubliée. La Troisième République, que l'on crédite d'avoir instauré les grandes libertés économiques, de la presse, c'est elle qui, en 1880, en 1902, 1903, va expulser des milliers de religieuses et de religieux, alors à tort ou à raison selon les points de vue, c'est elle qui va...
C'est de rappeler en 1915, pendant la Première mondiale, lorsque les poilus mouraient dans les tranchées.
Ouais, c'est elle qui va ficher des militaires qui assistaient à la messe. C'est elle qui va destituer des centaines de magistrats qui refusaient d'appliquer des décrets anticléricaux. Donc on a manifesté à l'égard du christianisme une certaine intransigeance. Et moi j'appelle à, si vous voulez, une espèce de
et on n'est pas capable
radicalité républicaine
en fait,
et de l'appliquer à l'égard d'une superstition qui est beaucoup plus dangereuse, qui serait dans l'intérêt de tout le monde, y compris des musulmans, encore une fois, qui n'ont pas intérêt à l'islamisation de notre pays.
Petite question d'actualité pour terminer, du coup, comment vous voyez par exemple la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous les voyez comme des opportunistes qui, comme vous dites, infantilisent justement les musulmans pour en faire un électorat docile? Comment vous voyez cette force politique?
Ce sont des idiots utiles qui finiront par être mangés par le crocodile qu'ils nourrissent. Dans l'histoire de l'Occident, il y a toujours eu des idiots utiles de l'islam. Déjà, lorsque les musulmans sont arrivés en Espagne, vous avez des clans dans l'Espagne visigothique qui ont utilisé les musulmans dans leur lutte de pouvoir interne. Ça s'est mal fini pour eux. On a François Ier qui scelle une alliance avec les Ottomans contre les Habsbourg. Donc, il y a toujours eu des idiots utiles de l'islam qui étaient tentés d'instrumentaliser entre guillemets, la puissance islamique à des fins de politique intérieure. Moi, je dis à ces gens qui voteraient la France insoumise, regardez comment les gens de gauche ont fini dans le monde musulman. Généralement, ça s'est pas bien fini pour eux, et c'est même les premiers à passer généralement à l'échafaud.
On pense notamment aux communistes iraniens.
Exactement, c'est l'exemple qui revient très régulièrement.
Merci beaucoup, Fergan Aziari, d'avoir été avec nous pour parler de votre livre « L'islam contre la modernité » aux éditions, aux presses de la Cité. Merci d'avoir été avec nous.
Merci pour votre invitation.
On vous retrouve dans quelques instants, chers auditeurs. D'abord, un petit message de votre radio.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, et Valentin Gore, journaliste chez Valeurs Actuelles. Nous venons de recevoir Fergan Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité aux presses de la Cité. Restez avec nous, chers auditeurs, tout de suite une chronique d'Olivier Molin sur un intellectuel disparu. Olivier Molin, l'histoire et l'anthropologie perdent un grand nom aujourd'hui dans un silence de cathédrale. Que s'est-il passé ?
Ben en effet, début février, une triste nouvelle est apparue sur les réseaux sociaux. La mort, près de 3 mois auparavant, le 26 octobre 2025, dans son village natal de Toubab Diallo, à l'ouest du Sénégal, de Tidiane Ndiaye, à l'âge de 75 ans. Une mort dans la discrétion médiatique, c'est le moins que l'on puisse dire, dépourvu des hommages habituels de ses pairs et qui en dit long sur la gêne des milieux intellectuels et universitaires auxquels il appartenait. Économiste et anthropologue franco-sénégalais, Tidiane Ndiaye a vécu longtemps en Guadeloupe où il a mené une carrière de chargé d'études à l'INSEE, tout en étant directeur de recherche à Subdeco Caraïbes, à Pointe-à-Pitre. Parallèlement à ses travaux économiques, il a publié plusieurs enquêtes historiques liées à l'Afrique, dont le génocide voilé chez Gallimard en 2008, qui a fait l'effet d'une douche écossaise pardon, à ceux qui se plaisent à croire que l'Occident est coupable de tous les maux de l'Afrique.
Et de quoi traite ce fameux génocide voilé ?
Eh bien, c'est l'étude précise et documentée d'un événement historique que personne ne veut voir, tant il remet en cause la vision confortable héritée de la colonisation entre d'un côté les persécuteurs, c'est-à-dire nous, l'Occident, et de l'autre, les persécutés, les colonisés. Cet événement, c'est la traite des Noirs par le monde arabo-musulman. L'anthropologue nous montre qu'elle fut d'une autre ampleur que la traite atlantique et d'une autre nature même. Ce qui, précisons-le, n'enlève évidemment rien à l'horreur de la traite européenne. Elle est d'une autre ampleur car elle a duré 13 siècles contre 4 pour la traite transatlantique. Elle a commencé avec l'accord imposé en 652 par l'émir Abdallah Ben Saïd aux Soudanais, les obligeant à livrer chaque année des centaines d'esclaves du Darfour. Elle s'est arrêtée officiellement au cours du XXe siècle, rappelons-le quand même, 1962 pour l'Arabie Saoudite et 1980 pour la Mauritanie. Donc elle s'est donc arrêtée officiellement au cours du XXe siècle, même si on sait, malheureusement, qu'elle se pratique encore aujourd'hui. Ce sont donc 13 siècles de razzia, avec son lot d'atrocités, qui ont vidé l'Afrique de ses forces vives par le Sahara, puis par la mer à l'est à partir de Zanzibar. Les historiens estiment le nombre de déportés liés à la traite transatlantique à 10 millions, celui de la traite arabo-musulmane à 17 millions, sachant que pour un esclave prélevé, il mourait en moyenne 3 Africains au cours des rafles sanguinaires dans les villages. Le commerce négrier et le djihad furent pour l'Afrique noire bien plus dévastateurs que la traite transatlantique, affirme l'auteur. Quant à la nature des deux traites, là encore, elles diffèrent. Pour épouvantable qu'ait été la traite européenne, elle n'a pas eu de visée génocidaire, nous dit Tidiane Ndiaye, contrairement à celle des négriers arabes qui pratiquaient la castration massive pour éviter que les Noirs ne fassent souche. C'est ce qui explique du reste qu'il y ait aujourd'hui dans les Caraïbes, au Brésil et aux États-Unis 70 millions de descendants contre à peine 1 million dans les pays musulmans de destination des esclaves.
Mais alors que conclure de tout cela, Olivier Molin ?
C'est très simple. Des deux civilisations qui ont pratiqué la traite négrière, l'européenne et l'arabo-musulmane, la première a fini par l'abolir au cours du XIXe siècle. Elle l'a combattue dans ses colonies. Elle a demandé pardon par la voix de Jean-Paul II à Gorée en 1991 et elle cultive aujourd'hui la mémoire de cette tragédie. La seconde, quant à elle, n'a jamais rien reconnu et n'a jamais vraiment aboli l'esclavage, du moins complètement. Et c'est pourtant exclusivement à la première, c'est-à-dire à la nôtre, que l'on demande des comptes. En 2001, Christiane Taubira avait reconnu comme crime contre l'humanité la seule traite européenne pour ne pas que les jeunes Arabes, je cite, ne portent sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des Arabes. La question à se poser est donc celle-ci, ne serait-il pas temps de partager un peu le fardeau ?
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour dans l'émission Restons courtois sur l'antenne de Radio Courtoisie, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore, journaliste du service politique de Valeurs Actuelles, et Étienne Darjac, éditorialiste. Nous avons par téléphone Christophe Benz, député RN de Haute-Marne. Bonsoir monsieur le député.
Bonsoir Marc Hainaut et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Christophe Benz, vous êtes député du Rassemblement National, on l'a dit, vous êtes surtout orateur de votre groupe concernant le texte sur la fin de vie. Concrètement, vous siégez en commission et vous êtes un témoin privilégié des évolutions de ce texte, tel que voté en première lecture par l'Assemblée Nationale, puisque le Sénat a voté contre, on y reviendra bien évidemment. Avant de vous donner la parole sur ce texte, Christophe Benz, je voudrais juste faire écouter à nos auditeurs cette intervention de la députée macroniste Nicole Dubré-Chirat. On me fait signe qu'il y a un petit bug technique. Alors cette députée, Christophe Benz, vous l'aviez face à vous en commission. Elle était un petit peu sortie du bois quelque part et ça vous avait particulièrement choqué. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette séquence ?
Bien sûr, ça m'avait choqué, scandalisé. En fait, cette députée macroniste Dubré-Chirat. Donc qui est, elle, partisane, militante pour l'euthanasie et le suicide assisté, en fait, a fait un aveu en disant que pour tous les Français qui ne pouvaient pas accéder aux soins palliatifs, malheureusement, qui ne pouvaient pas, eh bien, finalement, on pouvait leur proposer ce dispositif d'aide à mourir, hein, qui est en fait un système de suicide, hein, quelle que soit sa forme, hein, peut être assisté, peut déléguer un soignant, mais c'est bien une forme de suicide. Et c'est là où c'est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, je l'ai rappelé d'ailleurs en commission, en rebondissant sur le scandale de ces propos, et ça veut donc dire que les 200 000 Français par an qui meurent sans avoir accès aux soins palliatifs, eh bien, on leur propose comme seule alternative à la souffrance, la mort. Voilà. Et c'est en ça que c'était un grave révélateur de ce qui est en train de se passer à l'Assemblée avec ce texte.
On va refaire la genèse de ce texte très rapidement, Christophe Benz. Donc, il a été voté en première. Il a été débattu une première fois à l'Assemblée nationale, mais la dissolution de cette même Assemblée a annulé les travaux. Il est revenu. Il a été voté en première lecture avec une majorité absolue, mais néanmoins plus courte que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il est parti au Sénat. Les sénateurs ont fait quelque chose d'absolument formidable, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé l'article 4 qui légalisait l'euthanasie tout simplement. Donc on aurait pu penser que le texte allait revenir vide à l'Assemblée. Il est revenu plein de tous ces articles. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe Benz ?
Alors malheureusement, en fait, les sénateurs ne sont pas allés jusqu'au bout de leur logique. Effectivement, ce qui s'est passé dans la commission du Sénat et dans l'hémicycle du Sénat était une bonne chose. Ils avaient vidé de sa substance le texte. Et donc il aurait fallu qu'ils votent pour, puisque c'était un texte qui venait en fait, au contraire, rappeler le principe de non-intentionnalité dans la provocation de la mort. Voilà, c'était en fait un renversement total du sens du texte, et tant mieux d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas allés au bout et ils ont rejeté leur propre texte. Voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que nous, à l'Assemblée nationale, on a récupéré à défaut donc, le texte qui a été malheureusement voté le 27 mai 2025, la même version qui, au passage, et si vous voulez, on peut en parler, a encore été aggravée la semaine dernière en commission.
Donc ce texte est encore en commission. Concrètement, est-ce qu'il s'est passé la même chose qu'en première lecture ? Est-ce que les lignes rouges sautent les unes après les autres, Christophe Benz ?
Totalement, totalement. C'est ça qui fait froid dans le dos, c'est qu'on se rend compte que toutes les dérives que l'on dénonce, en fait, sont en train de se dérouler devant nos yeux au stade de la navette parlementaire. Je prends deux exemples, si vous le voulez bien. La semaine dernière, en commission, ils ont supprimé l'effectivité de l'accès aux soins palliatifs avant de pouvoir demander ce qu'ils appellent l'aide à mourir, la mal nommée aide à mourir, qui ne dit pas les vrais termes, évidemment. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est qu'ils ont supprimé une phrase qui était importante, où l'on rappelait que la souffrance psychologique seule ne peut pas être un motif pour demander l'aide à mourir. Et donc, ils l'ont supprimé. Et donc, maintenant, dans le texte, en l'état, au moment où je vous parle, seule une souffrance psychologique peut suffire à demander à être suicidé.
C'est glaçant. Valentin Gore, vous avez une question pour Christophe Benz.
Oui, monsieur le député, comment expliquez-vous l'espèce d'acharnement des députés qui sont favorables à l'euthanasie ? Vous avez raison de repréciser le terme qui est bien euthanasie. Comment vous expliquez cette volonté, alors que la France est quand même confrontée à quantité de scandales, de problèmes majeurs qu'il lui faut régler. Comment vous expliquez, que les députés macronistes, notamment, souhaitent faire avancer ce texte un peu coûte que coûte ?
En fait, ils ont un agenda qui est accéléré. Il faut savoir quand même qu'au passage, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, elle a été facilitatrice en la matière. Elle ne s'en cache pas puisqu'elle est militante en faveur de ce texte. Donc, ils nous ont contraints à aller beaucoup plus vite. Et je vous prends un exemple très concret. Ils ont accéléré au point de retirer de l'agenda de l'Assemblée nationale des textes pour mettre en urgence, je mets des guillemets, pour mettre en urgence la deuxième lecture de ce texte. Ce qui en dit long sur le sens des priorités de ce gouvernement et de cette majorité gauche-macroniste qui est en faveur de ce qu'ils appellent l'aide à mourir. Donc c'est ça le vrai scandale, parce que la vraie urgence à notre sens, nous qui sommes les opposants, les farouches, j'allais dire, opposants à ce texte, nous ce qu'on dit c'est que la seule urgence, c'est le développement des soins palliatifs partout et pour tous. Ça, c'est une urgence.
Alors pour le coup, le développement des soins palliatifs, Christophe Benz, visiblement, il recueille quand même l'unanimité chez, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée, il y a eu une unanimité pour le développement de ces dispositions à une ou deux voix près.
Bien sûr, oui, tout à fait, il y a unanimité. Et j'allais dire, heureusement, mais si vous voulez, cette loi sur les soins palliatifs, elle est consensuelle parce qu'elle est presque inutile. Elle n'ajoute pas vraiment grand-chose. Les outils juridiques, aujourd'hui, on les a. Elle s'appelle la loi Pless-Leonetti, 2016, donc elle a 10 ans hein, aujourd'hui. Ce qu'il faut simplement, c'est y mettre les moyens financiers. Et les moyens financiers pour les centres palliatifs, il suffit de les faire voter dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, chaque automne. Voilà. Et malheureusement, nous on dépose, ma collègue Sandrine de Gorsuche, qui est députée des Pyrénées-Orientales, chaque année, dépose des amendements pour augmenter le budget des soins palliatifs. Chaque année, ils sont malheureusement rejetés par le bloc central et la gauche. Mmh. Donc ça en dit long, ça veut dire qu'en fait ils ne veulent pas mettre les moyens sur les soins palliatifs. Alors, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'il faudrait.
Il y a une note très intéressante de la Fondapol de Dominique Régnier, d'ailleurs Fergan Aziari avait cité le travail de la Fondapol dans l'interview qu'on a fait précédemment. Dominique, donc cette note explique notamment, démontre à quel point les sociétés de mutuelles notamment font une campagne active pour l'euthanasie, parce qu'on imagine bien sur l'angle économique, les économies qu'elle ferait tout simplement à finalement encourager des clients âgés à se faire euthanasier plutôt qu'à d'assumer le remboursement de leurs soins. C'est ça aussi qui est glaçant, Christophe Benn, c'est que derrière évidemment les enjeux bioéthiques et moraux, il y a des enjeux sordides d'inégalité en réalité, puisque l'euthanasie ça va être le soin du pauvre presque.
Bien sûr, en fait il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Moi, je pense qu'il faut qu'on assume politiquement, en tout cas, moi, j'assume de dire, oui, il faut plus d'argent, oui, il faut dépenser davantage, bah oui, il y a des endroits où on peut faire des économies, réduire les dépenses. Dans le secteur des soins palliatifs, c'est l'inverse. Il faut mettre plus d'argent sur la table. Et je pense qu'effectivement, d'imaginer qu'on puisse faire une économie sur la vie humaine en ne proposant pas de soins palliatifs, mais plutôt un suicide assisté ou délégué, eh bien, c'est proprement choquant.
On voit d'ailleurs des propositions absolument incroyables, notamment ce député qui proposait à ce que les médecins retraités reprennent du service, non pour soigner, non pour soulager, mais uniquement pour procéder à une euthanasie.
Un scandale de plus dans un texte qui est profondément scandaleux. Et effectivement, ce n'est pas d'ailleurs le rôle d'un soignant quel qu'il soit un médecin, qu'il soit infirmier. Encore il y a deux jours, l'Ordre national des médecins a dit son opposition. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur métier que d'injecter une substance létale dans le corps d'une personne humaine vivante. Voilà, ce n'est pas leur métier. Leur métier, c'est de soigner, et de soigner jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la mort naturelle.
Dernière question, Christophe Benz, on va pousser le raisonnement, se faire un peu l'avocat du diable. Certes, les soins palliatifs réduisent fortement la demande d'euthanasie, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, mais au bout d'un moment, si les soins palliatifs sont impuissants à soulager, si la personne est seule, qu'elle n'a plus aucune option et qu'elle n'a pas d'autre option que de souffrir et finalement mourir, est-ce que quelque part la laisser partir de la manière dont elle le désire n'est pas un service à lui rendre?
Mais non, c'est sous-estimer le progrès humain, social et médical que représentent les soins palliatifs. Parce qu'en réalité, ce que nous disent les médecins en soins palliatifs, c'est qu'ils arrivent à prendre en charge la douleur, à prendre en charge les souffrances dans l'ensemble des cas de figure, des pathologies dont sont atteints les personnes. Donc, il y a dans la loi actuelle tous les dispositifs, jusqu'à la fameuse, on la connaît maintenant beaucoup, puisqu'on a beaucoup communiqué dessus, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Voilà, qui n'est pas une mort provoquée, qui n'est pas une mort intentionnelle, c'est une forme de mise en coma artificielle pour soulager totalement les douleurs. Donc, en fait, les outils, ils existent, il suffit de les appliquer, et j'y reviens, pardon, et d'y mettre les moyens financiers.
Donc concrètement, comment ça va se passer là, l'examen en commission est bientôt terminé?
Alors, l'examen en commission est terminé, il a terminé lundi, et nous démarrons en hémicycle de l'Assemblée nationale lundi prochain, le 16 février.
Pour des débats qui vont durer.
Pour une grosse semaine.
Pour une grosse semaine, et à l'issue de cette grosse semaine, comme vous dites, le texte sera soumis au vote. Ce sera. Alors, à partir du moment, même la question est un petit peu technique, mais à partir du moment où le Sénat a rejeté le texte, il n'y aura pas de commission mixte paritaire, de toute façon.
Si, le Sénat va récupérer le texte en deuxième lecture. Et après,
il y a une deuxième lecture du Sénat.
Soit conclusive ou non, ça on verra, impossible de dire à ce stade, mais ce qui est certain, et je peux vous l'annoncer, c'est que là il y a déjà plus de 2000 amendements qui ont été déposés sur les deux textes, hein, parce qu'en fait il y a un texte soins palliatifs distinct du texte sur l'aide à mourir, je remets des guillemets à aide à mourir, donc plus de 2200, donc on voit que c'est un débat d'une telle gravité que voilà, les députés veulent, en tout cas les opposants pour la plupart, veulent aller vraiment sur un combat de fond, voilà, un combat. Moi je suis venu dire que oui, je veux combattre totalement ce texte, pour qu'il soit battu, en l'occurrence le 24 février, puisque c'est la date, à l'heure où parlons, c'est la date du vote définitif sous forme solennelle.
Yael Braun-Pivet compte sur une application de ce texte avant l'été. Ça veut donc dire qu'effectivement, toutes les forces parlementaires seront jetées dans cette bataille contre le temps. Ça vous paraît tenable ?
Mais on fait tout, on va tout faire pour à minima, si on n'arrive pas à battre le texte, pour ralentir la navette parlementaire, parce qu'on ne veut pas de cet empressement. On trouve que c'est un sujet beaucoup trop grave, que le référendum serait préférable, parce que j'ai toujours dit que une poignée, alors 1000 parlementaires qui décident d'un sujet aussi grave, aussi profond, qui touche à la vie humaine et à la mort, ça ne me paraît pas adapté. Et moi, je veux aller au référendum parce que je suis convaincu que les Français s'y opposeront dans les urnes. Et d'ailleurs, vous parliez, Marc Hainaut, tout à l'heure, de l'excellente étude qui a été faite par la Fondapôle sur un très gros échantillon de 3000 personnes. Eh bien, elle démontre que dans toutes les catégories d'âge, socio-professionnelles, toutes les sensibilités politiques sont en fait opposées à ce texte.
Merci beaucoup Christophe Benz, député RN de Haute-Marne et orateur du groupe Rassemblement National sur le texte sur la fin de vie. Bien évidemment, Radio Courtoisie et Valeurs Actuelles suivront avec intérêt la poursuite de ces débats pour vous tenir informés, chers auditeurs. Merci beaucoup monsieur le député, on vous libère, on vous laisse retourner
Merci
en séance.
À très bientôt.
Merci à vous.
À très bientôt, au revoir.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, je suis Marc Hainaut, je suis avec Valentin Gore et Étienne Darjac. Vous venez d'écouter le député du Rassemblement National, Christophe Benz, orateur du groupe Rassemblement National sur le texte sur la fin de vie. Votre impression à chaud, messieurs, ça a l'air mal parti cette histoire. Étienne Darjac.
Réaction à chaud, profonde dépression.
Bah, les sujets sont pas très joyeux, c'est vrai, ce soir.
Non, non, je
on va tâcher d'être de bonne humeur, mais c'est vrai que...
J'ai la sensation que ce combat contre l'euthanasie que mènent Christophe Benz et d'autres à l'Assemblée nationale est un combat profondément noble et juste, mais d'autant plus noble et juste qu'il est perdu d'avance.
Vous avez l'habitude de ce genre de philosophie.
Je suis pourtant. Oui, bien sûr. Mais c'est
bien plus beau lorsque c'est inutile. Je suis
pourtant pas très vieux. Hein, j'ai 28 ans, mais. Je pense ne surprendre personne en disant que j'ai fait les manifs pour tous, les premières en 2014-15.
Vous aviez quel âge?
J'avais 13 ans, 14 ans.
Ah ouais, bravo. Ouais. Premier engagement militant.
Ouais. Et je ne peux que constater que ça fait 10 ans, même plus que ça maintenant, 12 ans, qu'on perd sur ces sujets et qu'on perd à chaque fois de plus rapidement, avec moins de combats, en opposant moins de forces. J'ai vraiment la sensation d'un je parle pas à cœur ouvert hein, mais d'un raz-de-marée sur ces sujets précis bioéthiques. Bioéthique est pas idéal, mais on comprend quoi. Et je me sens un peu désarmé, moi, et donc j'écoutais le député Benz avec beaucoup d'intérêt, et il faut évidemment que toutes les forces qui peuvent être jetées dans la bataille parlementaire doivent l'être, mais bon, voilà, l'issue est connue. Et je dois avouer que pour avoir suivi les différentes propositions d'amendements...
Absolument délirantes.
Il y a des choses qui sont... Mais c'est pas délirantes, qui sont sordides. Qui sont à pleurer, quoi.
C'est ça qui est abominable. Mais alors, pour essayer de donner un peu d'espérance, Gabriel Attal est tellement serein vis-à-vis de ses avancées, je mets les guillemets, d'usage sociétal, qu'il veut inscrire dans la Constitution le principe de non-régression sociétale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose a été voté, qu'il soit enterré dans la Constitution. C'est-à-dire quand même que même si les combats effectivement se perdent les uns après les autres, on a l'impression que le camp d'en face n'est quand même pas très serein quant au sens de l'histoire.
C'est ce que j'allais dire, parce que peut-être que l'un des effets de ce raz-de-marée progressiste, là aussi je mets des guillemets, il faut mettre des guillemets à tout dans ces affaires-là, c'est aussi le fait que la droite a un peu entériné que finalement il n'y avait qu'une seule manche. C'est-à-dire que si on avait perdu la bataille, ce qu'une élection a fait, une autre peut le défaire, moi je le crois. Et je crois qu'il faut assumer de dire que sur ces textes, il ne faut pas dire, voilà, c'est passé, c'est ce qui s'est passé pour le mariage pour tous. Où finalement Nicolas Sarkozy avait dit on va l'abroger, puis finalement tous les ténors LR s'étaient dit bon non, on passe à autre chose, tant pis, on a perdu là-dessus, ça sert à rien, c'est ancré dans les mœurs. Moi je crois pas du tout, notamment sur l'euthanasie. Je pense qu'il faut assumer de dire que si un gouvernement de droite arrive au pouvoir un jour dans ce pays, ce qui est peu probable, je sais pas.
C'est le dernier coup de pelle.
Mais, j'exagère un peu mon pessimisme.
Un coup, tiens,
mais j'exagère volontairement mon pessimisme. Mais je crois qu'il faut tout à fait assumer. Il faut dire, bah, si Gabriel Attal devient président et qu'il met ce principe de non-régression, eh ben, il faut dire, si nous arrivons au pouvoir, nous supprimerons ce principe de non-régression. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et notamment, la Ve République offre la possibilité du référendum. Il ne faut pas s'interdire de s'en servir.
Et la Ve République n'est elle-même pas gravée dans le marbre.
Ne me lancez pas sur ce sujet. Écoutez, moi, je vote en faveur de la motion d'espoir de Valentin Gohan. et j'ajoute que une fois au pouvoir, nous interdirons, en revanche, nous inscrirons dans la Constitution l'interdiction de Gabriel Attal du maire général.
Voilà, alors, bon, excellent.
Je vous propose un sujet un peu plus léger là, pour les 5 dernières minutes, très rapidement. Je parcourais le fil de X, anciennement Twitter, et je tombais sur le message d'un confrère de gauche qui s'étonnait, se choquait de la surreprésentation de Sarah Knafo dans les médias. Alors je dis ça avec d'autant plus de facilité que Valeurs Actuelles, on a consacré une à l'eurodéputée de Reconquête, candidate à la mairie de Paris il y a peu de temps, dont j'ai été largement co-responsable. Il pointe notamment 12, 13, 14 interviews de la candidate en très peu de temps. Allez, je pose la question un peu provoque. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec Sarah Knafo, Étienne Darzac?
Question provoque, réponse provoque. Non, en fait, on parle énormément de Sarah Knafo, ça c'est absolument indéniable. Mais parce que de quoi voulez-vous parler d'autre?
De Thierry Mariani, par exemple.
Oui, mais voilà, vous l'avez dit. Enlever Sarah Knafo de l'équation, il se passe quoi dans cette campagne? Qui a fait une proposition notable?
Il y a quand même le duel Rachida Dati et Emmanuel Grégoire.
Mais justement, on nous l'annonce depuis des années, ce duel. On dit elles sont fantasques.
Vous attendez Emmanuel Grégoire depuis des années.
Non, Dati, voilà, Dati, autour, on a fait une espèce de reine de la scène poétique française. Vous l'avez entendu dire une phrase, vous avez retenu une annonce, une punchline.
Elle a ramassé les poubelles.
Oui,
elle a confronté les craqueux.
Donc, en fait, moi je veux bien qu'on dise on en fait trop de Sarah Knafo, mais les gens, c'est la seule qui, il faut bien le dire, a fait des propositions concrètes, on en pense qu'on veut, mais des propositions concrètes marquantes, qui à chaque fois ont été capables de faire parler l'intégralité des autres candidats. De fait, on ne parle que de ces propositions parce qu'il y a quelqu'un qui en fait.
En tout cas, notamment les voix sur Berge, par exemple, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Je lui avais reconnu Emmanuel Grégoire, d'ailleurs, en disant qu'elle, au moins, elle faisait des propositions.
Et j'ajoute que il y a un peu, pour Sarah Knafo, et c'est sans doute l'école Reconquête, la même aussi histoire qu'en 2022 avec Éric Zemmour. Il y a l'aspect nouveauté, il y a l'aspect radicalité, c'est les journalistes restent des journalistes, vous le savez, cher Marc, ça attire.
Ça veut dire que ça va finir de la même manière
Je ne sais pas, ça finira de la même manière, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, ça brille, et les journalistes aiment ce qui brille.
Valentin Gohan, vous aimez ce qui brille.
Les journalistes aiment ce qui brille, et Sarah Knafo est brillante, absolument, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Les propositions qu'elle fait sont iconoclastes, je pense qu'elles sont aussi d'autant plus iconoclastes qu'elle sait qu'elle ne sera pas maire de Paris, ce qui est aussi un peu plus facile pour faire des propositions dont certaines sont peut-être non pas intenables, car rien n'est intenable, notamment sa proposition sur les voies sur berge, qui est quand même assez haussmannienne, je dirais, parce que Paris a été capable de faire des choses très impressionnantes et des transformations radicales. Mais en tout cas, c'est certain qu'elle anime la campagne, qu'elle vient troubler un jeu parisien qui est quand même très installé, c'est vrai, vous l'avez dit, entre les socialistes et la droite traditionnelle, qui sont habitués au Conseil de Paris depuis toujours à être entre eux. C'est-à-dire que jamais le Front National n'y est entré, par exemple, vraiment par témoignage, il y a peut-être eu un élu une fois. Donc ils sont habitués à être entre eux, par tranche de 30 ans, ils gouvernent la ville. Voilà, donc maintenant nous allons voir ce qui va se passer au second tour. C'est certain que Sarah Knafo fait un peu plus envie, et il vaut mieux faire envie que pitié, qu'un autre candidat qui s'appelle Pierre-Yves Bournazel.
Étienne Darzac, très rapidement... Il y a effectivement, on a parlé de Paris, on a l'impression quand même que c'est la seule ville où Reconquête peut espérer faire un score et que, paradoxalement, la candidature de Sarah Knafo efface peut-être aussi les autres.
Oui, après, c'est pas une nouveauté, c'est pas une spécificité de Reconquête que la campagne municipale de Paris efface les autres. C'est vieux comme les élections municipales. Je suis moi-même berruyé et fier de l'être. J'ai bien conscience que les enjeux de la campagne municipale de Bourges, par rapport à ceux de Paris, sont pas très importants.
Future capitale européenne de la
Tout
culture,
à fait. Quand même. Tout à fait. Donc oui, après, Reconquête a aussi fait le choix, qui est à la fois un choix stratégique et le fruit des circonstances, de présenter un nombre relativement faible de listes. Hein. Il y a, je crois, une cinquantaine au total. Donc forcément, la tête d'affiche, la tête de Gaulle, c'est Sarah Knafo. Moi, je trouve que c'est plutôt positif. Et autant l'utiliser au maximum.
Et ben voyez, une prise de parole positive pour conclure cette émission, Étienne Darjac, même si les sujets étaient un petit peu ardus et pas forcément remplis d'espérance, mais je suis sûr que l'espérance viendra après nous. En tout cas, merci
l'espérance
à vous, chers auditeurs.
Jamais.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents avec nous pour ce Restons Courtois du jeudi. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et vous retrouvez demain le Restons Courtois de Boulevard Voltaire avec l'excellent Marc Baudrier. À très bientôt.
Ça suffit maintenant. We'll be right back.